Bienvenue sur Impact Positif. Je m'appelle Sylvia Micone. Il y a 2 ans, juste avant le 13 novembre, j'interviewais Plantu. Son parcours incroyable, mais surtout son engagement dans les écoles avec Cartooning for Peace sur la liberté d'expression. 2 ans plus tard, l'assassinat de Samuel Paty redonne un coup de projecteur sur son travail si crucial avec les jeunes. Une pédagogie originale, avait-il dit alors, mais trop peu reproduite. Revoici donc Plantu. Très bonne écoute avec Impact Positif. Bonjour Plantu.
Bonjour.
On est ravis de discuter avec vous pour Impact Positif. Merci de nous accueillir chez vous pour cette émission. Vous êtes dessinateur de presse, l'un des plus connus au monde. Vous travaillez au Monde, à l'Express, observateur de la vie politique française et internationale, insolent, drôle, humaniste, indigné, touche à tout. Mais aussi auteur, vous venez de sortir un dernier livre aux éditions du Seuil dont on va parler, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. C'est un entretien avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes aussi un artiste engagé au sein de Cartooning for Peace, une association que vous avez fondée il y a plus de 10 ans avec Kofi Annan, que vous présidez et dans laquelle vous défendez la liberté de la presse pour vos confrères menacés dans beaucoup de pays sur la planète. Vous menez avec cette association beaucoup d'actions, notamment dans les écoles. On va brosser toutes ces facettes de votre carrière, votre profil, votre parcours, mais on commence tout d'abord par le début. Vous vous appelez Jean Plantureux, vous n'avez pas commencé votre carrière professionnelle en tant que dessinateur. Vous étiez vendeur aux Galeries Lafayette, vous envoyiez vos dessins au Monde jusqu'à ce qu'un jour l'un d'entre eux soit publié. Quand vous repensez à vos débuts, vous vous dites quoi ?
Quelle chance ! Quelle chance de me retrouver avec des gens qui ont bac plus 10, bac plus 20.
Qui bah, sont vous avez même... fait des études aussi quand même.
Oui, mais que j'ai raté. Hein. Et donc, oh, j'étais vraiment le... Oh, j'étais le désespoir de mes parents parce que j'étais un garçon très sage en classe. J'ai toujours été très sage. Et je captais pas les choses que mes copains captaient. Je me souviens, j'avais un copain derrière moi en histoire. Je me souviens, il avait 15. Il disait jamais rien. J'ai dit, mais comment tu fais ? On a assisté au même cours. Moi, j'ai 8, toi, t'as 15. Et je voyais pas où était le problème, mais je captais, j'étais rêveur. Et donc, déjà, je dessinais beaucoup dans la marge de mes cahiers. Et puis, je voyais tout en dessin. Vous voyez, quand je vous vois, Sylvia, je vois votre... Vous savez, qui est typique de... Quand on est à l'écoute, vous mettez le doigt à côté de votre lèvre inférieure. Et ça veut dire, je suis vraiment, je te capte. Et même, d'ailleurs, on pourrait même dire, le doigt est presque une antenne. Mm-hmm. Et donc, pendant que vous me parlez... Moi, je vois le dessin que je peux faire, je vois les boucles d'oreilles, je vois le doigt.
Donc, et je vois
la boucle. Je vois, exactement. Je vois tout ce que j'ai envie de dessiner et de ce que je voudrais, si j'étais capable. Je dessine. Vous voyez, j'ai connu Cabu très, très bien, le dessinateur de Charlie Hebdo, que j'adorais. Je n'ai jamais été capable, comme lui, de dessiner aussi bien, rapidement, une personne avec quelque chose de caustique, de malin. Et à la fois que c'est une vraie caricature. Moi, si je dois vous dessiner, vous, Sylvia, vous êtes jolie, vous avez des beaux yeux, je vais l'axer là-dessus, et à la fin, vous allez me dire « Ah, vous m'avez fait plus jeune que je suis. »
Et en fait, parce que je n'aimais pas dessiner des femmes.
J'adore ça, parce que j'adore ça. Mais j'essaye de me débrouiller pour faire un dessin, quand j'aime la personne, plutôt gentil. Qui a pu arriver à faire un dessin incroyablement proche de la réalité, à la fois un peu méchant, un peu caustique, avec beaucoup de tendresse, mais avec un background d'académie, de dessin académique, que moi, malheureusement, je n'ai jamais eu. Donc, je me débrouille. Je suis le gars qui a passé sa vie à se débrouiller, en disant, en gros, ça ne s'est pas trop vu, les gens...
En tout cas, ça dure.
Ça dure, oui, exactement. Ça dure, et j'ai l'impression que c'est une escroquerie qui dure.
Vous avez le syndrome aussi de l'imposteur.
Oui, oui, oui. Et que je me dis, ils vont se réveiller, ils vont vite s'en rendre compte, ça va... Ou des fois, je me souviens que Jacques Fauvet, qui était notre directeur il y a 30 ans au Monde, quand il me serrait la main, je me disais, mais il ne se rend pas compte, il me serre la main à moi. Et puis en plus, il m'envoyait des chèques, à l'époque, quand je recevais des chèques quand je faisais des dessins. Et je recevais le chèque, je disais, mais attends, je fais des dessins, je reçois un chèque. Pour moi, c'était...
Impensable.
Inimaginable.
En tout cas, votre premier dessin, c'est une colombe avec un point d'interrogation dans le bec. C'est devenu un peu un dessin fétiche pour vous.
Incroyable. Mais vraiment, il y a des suites comme ça.
C'était en 72, hein.
Ouais, je travaillais, je vendais des meubles, je vendais des escabeaux. au sixième étage des Grilles Lafayette. Et puis, le matin, avant de venir aux galeries, je déposais... Je ne connaissais personne dans le monde de la presse. Hein. D'ailleurs, d'où le drame chez mes parents. Parce que quand ils ont vu que je me lançais dans le dessin de presse, ils ont dit « Mais Jean, tu ne te rends pas compte, tu ne connais personne. » Donc, c'était la catastrophe. Et à la pause de 11h, aux galeries, je téléphonais et, pour savoir si mon dessin avait intéressé quelqu'un. Alors, pendant des mois et des mois, il n'y a rien eu. Et puis un jour, un samedi, il y a un dessin qui a été pris, après deux, après trois, et j'ai compris que je rentrais peut-être dans une forme de carrière. Comme M. Jourdain qui découvrait qu'il faisait de la prose ou des vers dans la pièce de Molière, moi je découvrais que j'étais dessinateur de presse.
Mmh. Et donc votre longévité pour vous est encore inexplicable à ce jour.
Ouais, c'est le bon terme, inexplicable.
Alors, Le Monde, en tout cas, c'est une histoire qui dure depuis 1972. Vous faites donc la une du Monde depuis 1985. Autant dire aussi que vous avez vu comment le métier a évolué. Votre carrière, elle prend un nouveau tour après l'affaire des caricatures de Mahomet par des dessinateurs danois. On se souvient des protestations, des appels au meurtre, des ambassades incendiées, des morts même au Pakistan. Vous créez... En 2006, Cartooning for Peace, une association qui rassemble des caricaturistes du monde entier. Pour vous, il vous faut vous réunir et surtout éduquer au dessin de presse.
Éduquer à la liberté d'opinion, éduquer à quoi sert une image, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que c'est que la ligne rouge, qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que c'est que l'irrespect. L'autre jour, j'étais avec des petits jeunes d'une classe israélienne et une classe marocaine. Et il y avait François Hollande qui venait parler du rôle du dessinateur de presse. Alors je me suis dit, tiens, bah, puisqu'il est là, je vais le dessiner. Et donc j'ai dessiné mon petit Hollande comme je
comme vous l'avez toujours
comme
fait.
Je le fais, bien joufflu, tout ça. Et d'ailleurs, il trouve que j'exagère. Et dans l'assistance, on me l'a dit après, mais il y a des petits jeunes qui avaient 15-16 ans. Oh, mais l'irrespect, mais il dessine l'ancien président, mais il va où, là ? Et il trouvait que c'était irrespectueux de faire un dessin bonhomme, comme ça, du gars un peu joufflu, avec les lunettes un peu.
Et justement, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous vous dites, ben oui, qu'ils ont été éduqués à ne pas se moquer des autres, etc.
Alors, c'est ça où c'est très intéressant. C'est là où il faut parler. Parce que ils vont à la fois dire que certaines choses sont irrespectueuses, et d'autres, ils vont dire « Ah oui, mais ça, on n'y touche pas. Ça, il ne faut pas y toucher. » Mais ils vont pouvoir dire des mots, utiliser des mots sur les garçons, les filles, mais d'un irrespect total, mais ils ne se rendent pas compte des fois. Ou par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une école des Mureaux, et il y avait plein de jeunes, et ils ont fait, vous savez, ce qu'on appelle le chip. Vous savez ce que c'est que le chip ?
Non.
Alors le chip, quand vous allez dans certaines écoles, moi ça fait 10 ans que je vis avec le chip. Et moi, il y a 10 ans, je m'en foutais, j'entendais comme ça. Bon, bah, m'en fous, moi. Genre, apparemment, il y en a deux qui s'embrassent, ou je sais pas, une réaction, ou faire le con. Moi, je me souviens qu'en classe, il y avait un copain qui faisait comme ça tout le temps. Bon, dès que le prof avait le dos tourné...
Bon. Je me tourne peut-être vers David, qui est en train de s'occuper du son pour ce podcast. Vous saviez ce que c'était que le chip ? Non plus. Ok, ça va, je ne suis pas toute seule.
Eh bien, le chip, pour certains enfants qui viennent, dont les parents, grands-parents, viennent d'Afrique noire, eh bien, le chip, c'est il y a un problème. Et quand la prof, par exemple, en France, donne 3 sur 20 à une... il fait, le gamin, il prend sa copie, certains gamins, il prend, voilà. Qui veut dire, en gros, va te faire foutre. Une fois qu'on sait que ça veut dire « va te faire foutre », et je suis gentil parce que ça veut dire même pire, eh ben, et quand je l'entends, je dis « voilà, très bien, les amis, on a parlé du respect, de l'irrespect ». Alors, vous me dites pourquoi. Vous me dites juste pourquoi. Pourquoi le chip ? J'ai dit un truc qui vous a... Alors, du coup, il y a un grand silence. Mais on parle de ça. Et c'est passionnant de pouvoir aller jusqu'au bout de... Où, par exemple, il y a des gamins qui me disent « Ouais, mais alors, vous avez dit que vous ne permettiez pas tout, ça s'appelle l'autocensure. » Je dis « Bah oui, quand la vie privée d'une femme politique ou d'un homme politique, moi, je n'y touche pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Et toi, il y a des choses que tu fais. Oh, non, moi, je fais tout. Tout ce que je veux, je le fais. »
Mais c'est difficile, effectivement, de vous justifier quelque part ou d'expliquer votre métier.
Parce que
vous
dites normal.
Mon métier, c'est l'art du dérapage contrôlé. Oui. Est-ce que vous avez peur du dérapage tout court ?
Tout le temps. tout le temps. Et c'est une époque où, aujourd'hui, quand je fais un dessin, c'est une chose que je ne vous aurais pas dite il y a 5 ans. Un seul dessin, je peux être rayé de la planète en 2 secondes. Pourquoi ? Parce que je me rends bien compte quand je mets mes dessins sur Facebook. Il y a des fois, je prends la défense de Palestiniens qui reçoivent des bombes. Alors évidemment, je me fais traiter d'antisémite. Vous critiquez l'armée israélienne. D'ailleurs, vous n'auriez pas fait ça quand il y a un attentat à Jérusalem contre un bus avec des petits Israéliens qui sont assassinés. Il y a qu'à regarder mon Facebook. Il y a tout.
Il y a tout.
Il y a tout. Et ils ne l'ont pas regardé. C'est-à-dire qu'ils ont une mémoire de poisson rouge. Mmh. Ce qui fait qu'en une seule journée, je peux faire un dessin et basculer dans le rejet total et je peux être viré des cadres. Moi, je me souviens qu'une fois, parce que je l'entends beaucoup dans les écoles, il y a des enfants qui disent « Ouais, mais alors on peut vous dire par là qu'il y a des dessinateurs danois, ils ont humilié le prophète, et par contre, Dieudonné, lui, il n'a pas le droit de s'exprimer, donc ça veut dire qu'on peut enculer mon prophète, mais par contre, faire de l'humour sur la Shoah, on ne peut pas. » Et bien ce double discours, le deux poids deux mesures, je l'entends tout le temps. Oui. Et quand, d'ailleurs, j'étais pas forcément d'accord avec certaines choses dites par Dieudonné, mais que j'ai simplement dit la phrase « je suis contre son interdiction », mais j'ai failli mourir. Mmh. C'est ahurissant. Ce que je me suis ramassé comme injure. Et c'est pas normal, aujourd'hui, qu'un citoyen qui s'exprime puisse être amené à recevoir pendant 15 jours des injures répétées, des insultes, des menaces. Je veux dire, c'est ahurissant.
Enfin, j'irais jusqu'à dire que vous avez presque aussi l'habitude, quelque part, non ? Il y a d'autres dessins qui vous ont valu des injures, des flopés de mails.
Bien sûr.
Le pape, par exemple.
Le pape, bien sûr. Mais j'ai même, allons même plus loin. Moi, j'ai même eu des procès. Et pour le pape, j'ai eu un procès que j'ai finalement été relaxé. Mais c'est normal. La justice, elle est faite. Quand je reçois l'huissier ici, chez moi, et « Bonjour monsieur, papier bleu, procès », c'est pas la bonne nouvelle, mais je veux dire, c'est normal. Je veux dire, je ne suis pas au-dessus des lois, je suis un citoyen.
Votre personne n'est pas sacrée.
Ouvrez cette porte. Mais je me dis, c'est normal. Et puis j'ai passé 2 ans à me défendre avec mes avocats, qui m'ont très bien défendu. À la fin, je suis relaxé. Et ça, c'est normal. Mmh. Mais l'insulte, et jeter l'insulte sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, répéter, et bien, à la fin, on s'est dit, mais attends, justement, le gars dont que vous citez, il est très, très bien organisé. Quand je fais un dessin qu'il critique, il a tout un banc de sbires dont le boulot est de salir la personne qui a osé s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon. Et ils font ça très, très bien. C'est un vrai métier. Et d'ailleurs, j'ai une copine vénézuélienne. Je fais le rapprochement parce que c'est le Venezuela. Le Venezuela me vient automatiquement parce qu'il adorait le Venezuela et il adore toujours le Venezuela. Mais il y a une copine vénézuélienne de Caracas. Elle s'appelle Raima. Tous les jours, elle était insultée par Hugo Chavez. Tous les jours. Tous les jours, elle a été ensuite insultée par le président Maduro, le président actuel au Venezuela. Il donnait ses orientations sexuelles sur la télévision. Il donnait son adresse dans une des villes les plus violentes de toute l'Amérique latine. Et bien maintenant, il est réfugié à Miami. Et le jour où Mélenchon sera au pouvoir, j'irai ailleurs.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur votre engagement. J'aimerais qu'on revienne sur Cartooning for Peace, avec lequel vous mettez en avant le travail de ces caricaturistes qui sont menacés de mort dans leur pays parfois. Et je voudrais aussi qu'on parle de vos actions dans les écoles, dans les prisons. 12 années d'action maintenant. Comment vous mesurez votre impact ?
Quand, par exemple, là, j'étais en Turquie il y a quelques jours, pour défendre un dessinateur qui a fait de la prison, du journal Cumhuriyet, le grand journal d'Istanbul. Et il a déjà fait 9 mois de prison. Et il risque un autre procès. Et s'il le perd, il aura 13 mois de prison. Quand je me rends compte qu'il a besoin de moi, quand je me rends compte qu'il faut absolument aider ces dessinateurs qui se battent pour la liberté d'expression. Quand j'ai eu la chance, au mois de mai dernier, d'aller rencontrer Kofi Annan, avant qu'il ne disparaisse, pour faire une petite vidéo pour défendre ce dessinateur turc qui s'appelle Musakart. Et ben, Kofi Annan, tout de suite, il a fait une vidéo avec moi qu'on a mis sur les réseaux sociaux pour... Évidemment que ça ne peut pas le défendre totalement, ce dessinateur. Mais au moins, ce dessinateur sait qu'il n'est pas seul dans son pays. Et qu'il y a des gens de mon association, Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, avec plus de 180 dessinateurs, et on essaye de montrer les endroits où il y a des dessinateurs. On a défendu un dessinateur israélien il y a 2 mois, qui a fait tout le gouvernement israélien avec des têtes de cochon. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, je ne me permettrai pas de faire un truc comme ça. Lui, il l'a fait, il a été viré de son journal, le Jerusalem Report, et puis... Il a été même traité d'antisémite alors qu'il est juif. Ouais. Il est israélien, il est juif. Et donc, bon, on le défend aussi. Voilà, on défend tous ces dessinateurs qui se battent pour quelque chose qui s'appelle, un truc très simple, ça s'appelle une opinion. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des fois des opinions. Il y a des fois, je connais un dessinateur qui s'appelle Zlatkovski. Lui, quand je le vois à Moscou, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous faites à Paris, là, vous accueillez n'importe qui, tous les migrants, vous êtes fous ?» il est avec nous aussi. On n'est pas d'accord avec lui, d'accord. Mais on le défend aussi parce qu'il a des ennuis avec le clan Poutine.
Dans les écoles aussi, là, les ateliers se sont un peu accélérés aussi depuis 2015 et depuis les événements qu'on a connus en France. Vous avez touché depuis 3 ans 800 000 enfants.
C'est incroyable.
Là, pareil, qu'est-ce que vous vous dites ? J'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui est resté ? Oui. Ou vous vous dites, il y a du boulot, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer, il faut amplifier ? Qu'est-ce que vous vous dites ?
Et je dis qu'on a 2 petits sauts à Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, et qu'il y a un tsunami d'islamophobie, il y a un tsunami d'antisémitisme, et on a 2 petits sauts pour écoper. Et donc, je me dis, bon, on ne sert pas à grand-chose, mais au moins, on va faire ça. Voilà, c'est ça qu'on se dit. Pour le moment, je dirais que le pays n'est pas mûr. On vient de découvrir, alors là, ça me fait marrer, on vient de découvrir qu'il y avait une montée de l'antisémitisme en France. Oh, sans blague. Alors qu'il y a encore 2 mois, on nous a dit le contraire. Hein. On nous a dit on nous a vendu le contraire.
Donc, c'est l'ampleur qui peut surprendre.
Attends, l'autre jour, j'étais dans le sud de la France. Un endroit... Pas facile, hein, je peux vous dire. Les filles, quand elles vont aux toilettes, elles ont un code, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elles y aillent à 4, parce que sinon, il y a des problèmes. Bon. Et il y a un gamin, il lève le doigt, et il voulait me poser une question. Non, pas lui, c'est le feuge. Je dis, c'est le feuge, c'est le quoi. Non, mais c'est presque à se tordre de rire, tellement c'est affreux. Et à la fin, je discute avec les profs, je dis, mais... qu'est-ce qu'il a, ce juif ? Non, il n'est pas juif, il l'aime pas. Donc, il l'appelle le feuge. Je me dis, oh putain, où je suis ? Donc, il y a du boulot.
Il y a du boulot, et justement, vous dites que vous essayez d'axer la réflexion de Cartooning for Peace sur le ressenti.
Oui. Oui, parce que le ressenti, c'est un nouveau capteur qu'on traite beaucoup à Cartooning for Peace. Quand vous faites un dessin, pour une raison X, évidemment, le dessin, il est un peu vachard, il dérange, il décoiffe, il énerve, voilà. Mais il y a un moment, si les gens se sentent à tort, je pense aux dessinateurs danois, il y a 1 milliard de musulmans qui se sont sentis, ils se sont trompés, mais ils ont pensé que les Danois voulaient les humilier. Ils se trompent. Moi, à chaque fois, je vais dans le monde musulman, je vais au Proche-Orient, je vais dans le Maghreb, je suis allé aux Philippines, là où il y avait des musulmans. Bon, je leur dis, mais non, ils ont pas voulu... Ils faisaient une blague, ils font des blagues. Ils font des dessins rigolos qui font des blagues. Ah oui, mais non, mais... Même encore, il n'y a pas longtemps, il y a un dessin de Charlie Hebdo sur le 6e pilier de l'islam, sur Tariq Ramadan. Moi, je le trouve très drôle. Et je connais un gars qui est musulman, il me dit « Non, il ne faut pas rigoler avec ça. » Je dis « Mais déconne pas, c'est une blague. C'est Tariq Ramadan, le 6e pilier en forme de bite. Bon, bah, c'est une blague. Oh, c'est une blague. » Et le gars, il le vit mal. Alors je me dis « Bon, alors ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est que le ressenti. » Quand j'étais à Moscou, il y a un truc incroyable qui s'appelle, c'était il y a un an, un spectacle sur glace, comme Holiday on Ice, mais c'est des déportés qui évoluent sur la glace, habillés en déportés avec l'étoile juive. Ils miment la petite moustache Hitler, ils font le bras tendu, n'importe quoi. Je leur dis, mais attendez, c'est quoi le truc ? Ah ben, ça fait un buzz, pas possible, c'est génial. Je dis, ça fait un buzz, oui, c'est possible, ça fasse un buzz, mais vous imaginez le spectacle à Paris ? Eh ben, ce serait très bien. Je dis, ben, l'idée on ice, ça s'appelle la Shoah sur glace, mais vous vous rendez compte ? Vous avez compris ? Eh ben, ils ne comprenaient pas, et je pense même, je vais même plus loin, je ne suis pas sûr que ce soit antisémite. Je pense que c'est une n'importe quoi, que le gars, il n'a que en tête le buzz, et que maintenant, le sens est vide. Il n'y a pas très longtemps, Zara, la marque Zara, avait fait des maillots et des t-shirts rayés avec une étoile qui était une étoile jaune. Je dis, mais attends, ils sont fous là, les gars. Alors, ils l'ont enlevé. Mais qu'ils y aient pensé, et qu'il n'y ait personne pour dire, attends, il y a peut-être un petit problème, on va peut-être essayer de réfléchir. Non, ça, tu vas voir, ça va se vendre. Mais non, mais d'accord, mais c'est quoi le sens ? Dis-moi le sens. Et bien, je me rends compte que de plus en plus, le sens est complètement vidé. L'autre jour, je regardais un magazine. Il y a un, je ne dirais pas quel magazine, et je ne dirais pas quel grand metteur en scène de théâtre. Ils l'ont déguisé, le gars, pour l'interview, dont tout le monde se fout de l'interview. Il est déguisé avec de la marque. Alors donc, le gars, il prend la pose. Il est avec... là, c'est Ralph Lauren. Ça, c'est Dolce & Gabbana. Et tout. C'est quoi ? Et on se rend bien compte que dans la petite musique de la mise en scène et de la maquette du magazine, on n'a rien à foutre de ce qu'ils pensent du théâtre. C'est vide de sens, sinon le marketing. Et donc aujourd'hui, la ligne marketing l'emporte sur la ligne éditoriale.
Mmh. Et donc vous dites dans les écoles, finalement, vous ramez pour essayer de récupérer ça ?
Alors je rame plus que mes copains musulmans, parce que, évidemment, quand je suis dans une classe et qu'il y a un gamin qui dit « Ouais, vos copains, ils ont été tués, c'est bien fait. » Évidemment, là, il y a un petit temps, je suis habitué, donc je connais par cœur. Hein. Ouais. Donc j'ai tout ce qu'il faut.
Comment est-ce que vous habituez ? C'est-à-dire qu'on vous dit souvent ça ?
De temps en temps. Moi, je trouve que je l'entends 10 fois dans l'année, c'est 10 fois de trop. Hein ? Et quand je discute avec les profs, des fois, ils me disent, bah oui, vous n'imaginez pas comment ça a été dur au moment du 7 janvier 2015. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute. Et évidemment, quand j'entends « Vos copains, ils ont été tués, c'est bien fait », évidemment, quand je suis avec une dessinatrice comme Willis from Tunis, qui est une dessinatrice de Tunisie, évidemment, elle règle ça en 2 secondes. Moi, je mets 10 minutes. Elle règle ça en 3 secondes. Mais à la
parce
fin...
Parce qu'elle est musulmane et que c'est plus facile.
Exactement. Moi, je suis le petit blanc dans l'histoire. Et donc, à la fin, de toute façon, ça se termine toujours par des selfies. Hein, toujours. L'autre jour, on était avec cette classe israélienne et une autre classe marocaine. Il y a eu un moment, il y a un dessin d'un dessinateur de l'association qui avait montré un char dont les chenilles du char, c'était la Torah. Je peux vous raconter que c'était chaud. Hein. Mmh. À la fin, il y a toujours des selfies. Et c'est là où cette pédagogie, c'est une pédagogie géniale, mais qui n'est pas assez reproduite. On a touché 800 000. Ces 800 000, ce n'est pas assez. Il faut toucher tous les enfants.
Oui, et puis surtout, il faut le faire souvent.
Il faut le faire souvent, et puis aider les profs. Que je remercie. Les profs, sans les profs, on n'est rien. Et quand il y a des... Quand je vous dis... quand les profs me disent... Non, le feu, il n'est pas juif. Mais il me dit ça en baissant d'un ton dans la salle des profs. Parce que... ils disent, c'est pas facile. Donc, je me rends compte du boulot considérable. Et il ne faut pas les laisser tout seuls. Il faut les aider. Et c'est pour ça qu'on a cet outil, Cartooning for Peace, mais on pourrait en imaginer d'autres.
Hein. C'est un outil parmi d'autres, tout à fait. On va parler de votre livre, qui est sorti récemment, au titre qui pourrait être vu comme provocateur aussi, hein, « 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter ». C'est aux éditions du Seuil, c'est une conversation avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. C'est un livre un peu différent des autres pour vous. Comment elle a germé cette idée ? Quel a été l'élément déclencheur ? On a l'impression que vous avez eu envie un peu de vider votre sac avec cette interview.
Oui, c'est exactement ça. Et je pense toujours en dessin. Et quand j'ai la chance de rencontrer une personne, j'aime bien la faire réagir à des dessins parce que la personne dit des choses qu'elle n'aurait pas dites s'il n'y avait pas eu le dessin. Et quand j'ai voulu faire le bouquin, je pensais interroger une dizaine d'intellectuels sur Bon, on voit bien qu'il y a un problème, on voit bien qu'il y a une montée de l'islamophobie, on voit bien qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Comment on peut faire pour... On travaille aussi dans les prisons, hein, à Cartooning for Peace, pour essayer d'expliquer à plein de jeunes que le repli sur soi, le communautarisme, on est au bout du bout de ce qu'on peut faire sur les murs qui entourent les personnes maintenant et qui se replient sur eux-mêmes et qui n'écoutent plus les autres. Donc il faut, un, libérer la parole, et deux, essayer de comprendre pourquoi il y en a qui basculent. Et je me suis dit, tiens, je vais interroger des intellectuels, même un imam, et puis je discutais avec les responsables du Seuil, de mon éditeur. Je disais, d'ailleurs, je pourrais même aller voir le recteur de la mosquée de Paris. Ils me disent, vas-y. Et donc je prends mon téléphone. Coup de bol, je suis reçu. Et à ma grande surprise, parce que moi je pensais interroger plusieurs personnes, il me dit des choses incroyables sur, parmi les bonnes raisons, lutter contre l'antisémitisme. Et il le fait dans les mosquées, dans ses mosquées, parce qu'il dirige, il ne gère en gros que 30% des mosquées françaises. Mais à la fois, je me dis, mais il faut bien commencer par un bout. Et je me rends compte à quel point il est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il dit, attention. Il y a quand même l'Arabie saoudite qui finance des mosquées. Il revenait de Genève, où il y a une mosquée complètement salafiste et wahhabiste, et qui ne fait que déblatérer des conneries. Mmh. Et qui n'a aucune notion de ce que c'est que les droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits du citoyen, les droits de la femme, les droits les droits de l'opinion, les droits d'être libre. Et donc, il y a un boulot considérable. Et Dalil Boubaker n'a pas été entendu. Et je me rends compte que des lanceurs d'alerte, c'est très bien. Encore faut-il être entendu. Mmh. Et il n'a pas été entendu depuis plus de 20 ans. Et évidemment, ça nous pète à la gueule. Et quand, comme il le dit dans l'interview, et quand je vois un attentat, il me dit, pourvu que ce ne soit pas encore un musulman. Parce que ça lui fend le cœur.
C'est ce qu'il redoute par-dessus tout.
C'est ce qui lui fend le cœur de se dire, encore une fois, on va dire que c'est un musulman, et évidemment, bien entendu, ça va se retourner contre les musulmans.
Et vous dites également dans ce livre qu'il y a toute une pédagogie à réinventer pour essayer de calmer les choses, et expliquer que les musulmans de France ont une autre vocation qui ne ressemble en rien à ce que prônent les abrutis et les ignorants qui utilisent la religion du livre. On voit que chez vous, c'est vraiment une obsession. Ça pourrait être quoi les contours de cette nouvelle pédagogie, outre les actions que vous faites évidemment avec Cartooning for Peace?
Eh bien, quand un ignorant, parce que c'est le mot ignorant, il est le nœud de la conversation, quand un ignorant dit des choses sur le Coran, et on se rend compte que 9 fois sur 10, c'est n'importe quoi. Il ne le connaît pas. Il croit le savoir, il ne le connaît pas. Et quand il parle des juifs, l'argent et les juifs, il ne le connaît pas. Il ne connaît rien. Et donc, ça veut dire qu'il faut tout reprendre calmement. Je dirais presque sans invective, mais il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que s'il n'a pas compris, on ne quitte pas la pièce. Et si on n'a pas réussi au bout d'une heure, c'est un autre qui va prendre le relais. Je crois qu'il faut juste libérer la parole, parce que en plus, je vais aussi dans des endroits où je vois bien qu'il y a des jeunes qui, eux, me disent « Bon, ça va, j'ai compris, on m'a demandé de t'écouter, je t'écoute, mais je ne suis pas d'accord. » Et donc, je vois bien, je le connais par cœur, ce regard de mutisme, où je me dis, là, il faudra que je revienne, et celui-là et celle-là, il faudra qu'on revienne. Et j'apprends aussi énormément quand je suis allé à Molenbeek, à Bruxelles, eh bien, j'utilisais le mot djihadiste. Et il y a une petite musulmane de Molenbeek qui me dit, mais arrêtez avec le mot djihadiste. Le djihad, c'est, dans le Coran, c'est le combat contre moi-même. Le premier combat, le premier djihad, c'est contre le combat contre moi-même.
Oui, c'est un terme qui a été complètement galvaudé par l'actualité.
Exactement. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut dire? Elle me dit, il faut dire terroriste.
Oui.
C'est pour dire à quel point je suis dessinateur. J'ai raté mes études. Je baigne dans un milieu, je dirais, intellectuel et culturel. Et en fait, grâce à ce métier-là, je pose des questions avec mes dessins à ce recteur et j'apprends encore 1000 choses.
Dans ce livre, justement, le recteur commente et réagit donc à des dessins. Vous l'avez dit, vous lui montrez notamment ce dessin de Janko, un caricaturiste néerlandais, sur le doute, où l'on voit un homme monter sur une échelle et rentrer dans un nuage. On le mettra sur notre site internet. Il y a un autre personnage en bas de l'échelle qui lui demande « Et alors ?» Et qu'est-ce qu'il vous répond, Dalil Boubaker? Il a bien aimé ce dessin?
Il a rigolé. Il a rigolé en voyant le dessin, Parce qu'il a dépassé tout ça. C'est un croyant. Il se définit lui-même comme « je ne suis pas un musulman modéré, mais je suis tout simplement un musulman qui aime sa religion sans modération. » Et il le vit, il vit sa croyance. Moi, je ne suis pas croyant, je l'écoute. Et à la fois, je me dis, mais c'est intéressant. Il va jusqu'au bout de sa réflexion philosophique, je dirais. Et là, qu'est-ce qu'il me cite? Il me cite Montaigne, il me cite les grands philosophes, il me cite Pascal, il me cite Descartes. Et il me dit même cette chose incroyable que, d'ailleurs, Dieu, il le respecte, c'est proche de la lumière pour lui, et à la fois, il ne sait pas si c'est un carré, un cercle ou un cube. Moi, ça me plaît, moi. Moi, ça me plaît. Et donc, je me dis que ce dessinateur que j'ai appelé, le dessinateur hollandais, Janko, je lui dis, puis tu sais, j'arrête pas de poser des questions grâce à ton dessin. Et j'ai posé la question à Kofi Annan, j'ai posé la question au recteur de la mosquée de Paris, et ils me disent des choses incroyables sur le doute. Mm-hmm. C'est incroyable, le doute. D'ailleurs, j'en profite pour dire, il n'y a pas très longtemps, on a fait une rencontre à Blois, pour les rendez-vous de l'histoire à Blois. Et il y a une fondation du doute, un musée du doute. Et c'est très intéressant parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Parce qu'on n'arrête pas de regarder des infos, d'écouter les infos. Et on apprend beaucoup de choses sur les convictions des gens qui sont convaincus. Mais moi, j'aimerais qu'on parle des gens qui doutent, aussi.
En tout cas, on va revenir au titre de ce livre, hein, à ces 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. C'est-à-dire que c'est le recteur qui les donne, si on ne devait n'en retenir qu'une.
Aller dans les écoles, laisser parler les enfants, ne rien lâcher sur même leur dérapage, les laisser déraper, c'est pas grave. Moi, je préfère entendre des bêtises que d'entendre des balles siffler. Et aller jusqu'au bout, vider leur sac. Tu penses ça de telle ethnie, tu penses ça de telle frange de la population? Bon, vas-y, va jusqu'au bout, je t'écoute. Et à la fin, continuer cette conversation avec respect et avec empathie. Vous savez qu'à Trappes, il y a des écoles qui enseignent l'empathie avec les petits. Et ben moi, je trouve
ce sont les soft skills qui reviennent.
C'est formidable.
À la mode.
Apprendre, ils pensent l'autre qui est là-bas, là, on n'est pas forcément d'accord, mais a priori, j'ai envie un peu de l'aimer. Mmh. Et cette main tendue. C'est ce qu'on doit reconstruire. Déjà, commencer par la main tendue, c'est déjà pas mal. Et le fait que ce recteur de la mosquée ait envie de lutter contre l'antisémitisme dans les mosquées, je trouve que ça a de la gueule.
Vous, dans le cadre de vos actions pédagogiques, est-ce que vous parlez aux autorités, à des hommes politiques, à des personnalités en fonction pourraient peut-être écouter ce que vous avez à leur dire profiter de l'impact que vous avez déjà eu?
J'avais vu le ministre de l'Éducation il n'y a pas longtemps, et c'était quelques jours après que j'ai fait un dessin pour montrer qu'il y avait des profs qui ramaient. Parce que quand on a des expositions Cartooning for Peace, et que sur le Proche-Orient, par exemple, on y mélange des dessinateurs israéliens et palestiniens, et que quand il y a une étoile juive sur un des dessins, même si c'est un dessin œcuménique, palestinien, israélien, mais il y a l'étoile de David, il y a des endroits, il y a des écoles où les profs me disent « Non, on ne va pas le... » les 11 kakémonos de Cartooning for Peace, oui, mais peut-être pas celui-là. Et donc, j'ai simplement raconté ça dans un dessin. Et le ministre, il me dit, ah ben, vous critiquez les professeurs. Je ne critique pas les professeurs. Je dis qu'il y a des endroits, et en plus, je travaille avec les professeurs. Le boulot, c'est de travailler avec les professeurs. Mais il y a quand même des endroits où il faut quand même dire qu'il y a un tel antisémitisme, qu'il y a des expositions avec une étoile de David qui n'ont pas le droit d'être montrées. Et pour revenir sur le dessin du doute, ce dessin tout gentil sur le doute avec le gars en bas de l'échelle qui dit à celui qui est en haut avec les petites fesses qui dépassent du nuage, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est le doute. Eh bien, il y a des endroits autour de la Méditerranée où ce dessin qui fait partie de Cartooning for Peace ne peut pas être montré dans certains endroits de la Méditerranée parce que dans certains pays, le doute est interdit. Le doute est interdit. C'est une phrase qu'on ne me disait pas il y a 10 ans.
Plantu, on va revenir à votre métier de quotidien, à vos dessins quotidiens. On va revenir à la politique française un tout petit peu avant de terminer ce podcast. Est-ce que Emmanuel Macron, ça y est, vous l'avez bien dans les doigts?
Alors oui.
Vous, quand il est arrivé au pouvoir, on sent que vous avez eu un peu de mal.
Vous avez raison.
Vous aviez beaucoup de nostalgie.
De Sarko.
De Sarkozy, évidemment. Ça, c'est, on le sait tous.
Sarko, c'est mon petit préféré.
Aussi de François Hollande.
Oui,
comment alors, ça se passe maintenant? Vous l'avez, ça y est,
dans, ça y est,
c'est rentré.
C'est de mieux en mieux. Et, mais il y a quelque chose de rigolo chez Sarko. Comme il y a quelque chose de rigolo chez François Hollande. Et donc, évidemment, je me jette dessus, mais il trouve que je le fais trop joufflu, François Hollande.
Mais bon, vous en veux pas?
Je crois pas. Il dit que j'exagère, il dit que je le torture, mais bon. Mais il dit ça amicalement. Mais à la fois, chez Macron, il est beau gosse, il est mince. C'est pas un cadeau pour les caricaturistes. Mais on se débrouille, et puis ça vient de plus en plus... le personnage je laisse, vous savez, j'ai un copain dessinateur brésilien qui s'appelle Chico Caruso, il m'a dit laisse penser ton crayon, et j'adore cette phrase, on devrait toujours laisser penser son crayon, son stylo, parce qu'il y a un moment au bout des doigts, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas forcément imaginé dans nos têtes, mais à la fin il y a quelque chose qui prend forme. Comme le Trump, bon, la mèche comme ça, les yeux.
Facile, Trump.
Il est presque trop facile. Quand c'est trop facile, ça veut dire c'est pas. Quand c'est bon pour la caricature, c'est pas bon pour la démocratie. Et donc, il faut écouter son crayon. Et à la fin, le personnage prend forme. Et là, ça y est, depuis un an, ça y est, je commence à bien l'avoir. Mais il est en progrès. Il est en progrès. Enfin, c'est moi qui suis en progrès.
Alors Plantu, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière?
Que mon prof de dessin, qui s'appelait Boulard, Monsieur Boulard, il me disait, les Grecs disaient rien de trop. Et je crois que dans un dessin, rien de trop. Et des fois, je me fais le reproche, des fois, je regarde mes dessins, je dis « Pourquoi je suis trop bavard dans le dessin ?» Et en fait, il faut aller à l'essentiel. Et si j'ai un copain, Boligan, il est dessinateur cubain, il vit au Mexique, il est incroyable, il est universel, parce qu'il n'y a même pas un mot dans ses dessins, et ses dessins sont reproduits dans toute la planète. C'est le dessinateur le plus connu sur la planète, il s'appelle Boligan, et lui, c'est rien de trop. Et moi, pour moi... C'est ma balise d'espoir pour faire des progrès.
Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir?
J'ai peu connu... je ne vivais pas avec Cabu, mais j'aurais aimé lui poser 10 000 questions. J'ai dû lui en poser 10 000 moins 3, mais ce n'est pas assez. Parce qu'à chaque fois que je fais un dessin, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait lui? Alors moi, j'ai un copain, Kishka, qui est un dessinateur israélien. De temps en temps, quand je bute sur un dessin, par exemple, on a un copain commun que je n'arrive pas à dessiner. Et donc, j'ai fait des photos, j'ai regardé, j'ai reproduit, et je n'y arrivais pas. Et donc, à la fin, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, comment tu fais? Il me dit, mais maintenant, tu l'as dessiné combien de fois? 30 fois? Bon, très bien. Tu jettes tout, tu oublies tout, tu enlèves les photos, et maintenant, tu regardes ta page blanche, et ça va venir tout seul. Et il avait raison. Et donc, il fait partie des gens, des mes mentors, mais quand j'ai la chance de rencontrer Régis Debré, quand j'ai la chance de rencontrer un imam qui me raconte beaucoup de choses,
Kofi Annan, qui vous a aidé à lancer Cartooning for Peace.
Et Kofi Annan qui m'a rattrapé par la manche. Parce que moi, je pensais faire... Quand il a demandé de réunir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans et agnostiques à New York, à l'ONU, je pensais que je ferais un petit tour de piste. Bon, ben voilà, on a fait ça. Il m'a rattrapé par la manche. Il m'a dit non, t'as pas compris. Il faut que tu crées une fondation, il faut que tu crées une association. Je dis, mais je ne sais pas faire, moi. Et donc, j'ai fait ça, et ça fait 12 ans.
Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si
Je rends hommage à mes parents, mon père travaillait à la SNCF, et il a vécu comme un drame que je me lance dans le dessin, parce qu'il trouvait que c'était c'était la honte pour lui que je me lance dans le dessin. Et je me souviens même qu'à mon mariage, il avait invité personne de son bureau à la SNCF où il travaillait, tellement il avait honte de mon boulot. Et au bout d'un certain temps, je pense que cette hargne que j'ai toujours eue pour essayer de me faire aimer, ou des journalistes, ou des rédacteurs en chef, et tout simplement des lecteurs et des lectrices, eh bien, cette hargne, cette volonté, je pense que c'est grâce à eux, parce qu'ils ne m'ont pas facilité le boulot au départ, mais à la fois, c'est ça qui m'a donné des armes. Et puis, en plus, ma mère était un peu... Je dirais que dans la caricature, il faut être un peu méchant. Ma mère était un peu méchante. Je me souviens qu'elle disait, elle montrait une femme de loin, elle disait, celle-là, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle fait plus. Je croyais que c'était méchant, mais peut-être que j'ai pris un peu de cette méchanceté.
Ça vous aide dans vos dessins.
Ça peut aider.
Votre plus bel échec ?
Le plus bel échec... C'est marrant.
Vous ne l'avez jamais vu sous cet angle-là.
Je vais encore reparler de Cabu, dont j'ai fait une préface là, pour un bouquin qui est sorti sur lui. C'est que je me suis... Et là, je parle devant David Führer, qui me connaît bien, parce qu'il voit, il me connaît par cœur. Et il sait que je suis mort de trouille quand je vais à une interview, quand je vais à la télé, que je pense que la connexion, les dessins, ça ne va pas marcher. Il y a 1000 questions que je me pose. Et j'ai travaillé pendant 10 ans avec Michel Pollack, et donc Cabu, Lou, Ciné, qui étaient mes 3 copains dessinateurs. Et quand Michel Pollack me disait « Est-ce qu'on peut compter sur toi samedi prochain pour droit de réponse ?» Moi, j'étais content, je raccrochais le téléphone et le drame commençait pour moi parce que j'étais mort de trouille jusqu'au samedi. Et donc, je passais 4 jours à être mort de trouille avec une boule au ventre. Et même le samedi, quand j'allais à droit de réponse, normalement, c'était 22h30. J'y allais à 14h pour vérifier les ordinateurs. Il y avait un appareil qui s'appelait le vidéographe qui n'avait pas de mémoire. C'est-à-dire que quand je faisais un dessin en direct, il n'y avait pas de mémoire. Qui fait que quand la personne recevait un cendrier dans la gueule ou qu'il était interrompu, on changeait de conversation. Donc mon dessin était mort. Je faisais mon dessin en régie et donc il était mort. Et j'étais... Donc je préparais tous les cas de figure imaginables en fonction de qui allait parler, qui allait... Il y avait des changements tout le temps parce qu'il y avait des gens qui venaient, des gens qui étaient déprogrammés. C'était un drame pour moi. À tel point que le matin, je faisais mon dessin pour Le Monde. Après, je me replongeais sous mes draps et sous mes oreillers tellement j'étais mort de trouille d'aller à la télévision. J'allais à 14h. À 14h, j'étais allé à la SFP, rue des Alouettes. Je rencontrais des gens qui, évidemment, n'avaient évidemment pas préparé mon vidéographe, donc il était souvent en panne. Donc j'arrivais, il y avait un gars, en général bourré, qui venait avec un tournevis, qui venait réparer le vidéographe. Le gars était bourré, il n'arrivait pas à le réparer. Le gars il était inattaquable parce qu'il était syndiqué, je ne sais pas quoi. Une catastrophe jusqu'à 22h. J'entendais le générique. On commençait. Il était toujours avec son tournevis son picrate ou son Ricard 53 degrés. Et il réapparaît comme il pouvait l'appareil. Ça marchait comme ça marchait. Et moi, quand je voyais Cabu arriver, quand il prenait le boulot, alors que moi, ça faisait 4 jours que j'avais travaillé. Lui, il arrivait au moment du générique. Hein. C'est quoi le sujet aujourd'hui ? Oh putain ! Et moi, je me dis, mais quelle chance d'avoir cette insouciance. Et j'en ai beaucoup parlé avec Volinsky, évidemment, qui nous a quittés aussi. Je pense que ces dessinateurs, Cabu ou Volinsky, ou Tignous, pour moi, c'est l'époque de l'insouciance. Et moi, je n'ai jamais été insouciant.
Ça va mieux aujourd'hui ?
Non !
C'est pire.
C'est un drame. Parce qu'au début, quand je montrais mes dessins au journal, je disais bonjour à tout le monde, personne ne répondait. Au Monde, ça c'est le grand truc, le grand silence au journal Le Monde. Personne ne répond. Même encore aujourd'hui, je prends l'ascenseur, ils sont 15 dans l'ascenseur, il y en a 3 qui répondent, bon, c'est pas grave. Et donc, personne ne répondait. J'étais qu'une pâle merde. Et je me disais, mais ça se trouve, un jour... Ça va peut-être aller un petit peu mieux quand même, avec la patine de l'âge, tout ça. Et alors c'est vrai que je me rends bien compte que les gens à l'extérieur, ils ont l'impression de me mettre sur un piédestal. Ils ne savent pas que c'est pas... Ils savent pas à quel point c'est pas gagné à l'intérieur. Mais
Il vous faut confiance quand même depuis 85.
Oui, mais non. Parce que, en fait, Là où je suis encore moins sûr de moi, c'est que avant j'avais tout à prouver. Maintenant, on peut dire que j'ai prouvé beaucoup de choses. Mais donc, maintenant, je suis abîmé par l'idée que peut-être je vais décevoir une lectrice ou un lecteur qui ont aimé mon dessin il y a 3 mois, ou il y a 3 ans, ou il y a 10 ans. Et donc, il ne m'aime plus. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lui reprouve qu'il faut qu'il m'aime. Et donc, quand il y a une petite jeune qui arrive, oh, mon père vous adore. Mais moi, je m'en fous que ton père, il m'adore. Je veux que tu m'aimes aussi.
Plantu, on continue dans cette interview des clics. Un conseil que vous donnez tout le temps ?
Quand je vois mes copains de Charlie Hebdo, je leur dis, venez dans les écoles avec nous. Venez dans les écoles, parce que ce n'est qu'en écoutant la parole des jeunes, parce qu'eux, au moins, de temps en temps, ils parlent et ils disent même des horreurs, mais ils disent de ce qu'ils pensent, qu'on va pouvoir progresser. Et je pense que dans liberté, égalité, fraternité, on oublie le mot fraternité. Mon lecteur, ma lectrice, c'est ma sœur, c'est mon frère. Et donc, même si je les asticote, même si j'ai des trucs qui vont les énerver, il faut qu'ils sachent qu'ils sont mes sœurs et mes frères. À partir de là, toutes les portes sont ouvertes.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ?
Qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour libérer la parole. Ça peut être sous la forme de la danse. Ça peut être le rap, ça peut être le théâtre. Il y avait un film qui était sorti avec des jeunes de banlieue. Ils jouaient du Marivaux. Et c'était mignon parce qu'à partir du prétexte de Marivaux, en fait, le prof, qui était génial, arrivait à leur faire dire beaucoup d'autres choses. Et évidemment, pour ma chapelle, utiliser les dessins. Et utiliser les dessins, par exemple, on s'est rendu compte l'autre jour avec les dessinateurs de Cartooning for Peace, avec ce dessinateur qui est tunisien et qui avait montré un dessin sur les chenilles des tanks israéliennes avec la Torah dans les chenilles. Il faut toujours un plan B. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut montrer ce dessin-là. Moi, je suis pour. Il faut montrer le dessin. Et après, j'aime beaucoup ce dessin. Mais à la fois, ce dessinateur, je lui ai dit, écoute, tu as fait des dessins sur la Mecque, sur la Mecque de l'Arabie Saoudite, avec les gens qui tournent autour de la Kaaba. Tu as fait des dessins incroyablement dérangeants sur ce sujet hyper casse-gueule. Pense à le mettre avec aussi. Parce que à tous les coups, on va dire, alors quoi, il est antisémite. Puis alors, on va lui montrer le dessin sur la Mecque. Alors, on va dire quoi ? Bon, on va dire que c'est un dessinateur libre. Et qui essaye de partager. Il n'a pas de certitude. Un dessinateur n'a, au nom de quoi on aurait des certitudes ? On n'a aucune certitude. Pourvu que les gens ils puissent entendre qu'on essaye, on est des touches à tout, mais avec empathie. Et qu'on est à l'écoute de la culture des autres.
Merci beaucoup, Plantu, de nous avoir accueillis chez
Sylvia.
Vous pour un pacte positif.
Et puis, je suis vraiment touché qu'on ait pu ensemble aller jusqu'au bout de cette conversation sur jusqu'où on peut aller et comment il faut donner un coup de pied dans le fond de la piscine pour que cette putain de pédagogie qu'on n'a pas encore donnée à tout le monde, on puisse la faire partager dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées et dans toutes les universités.
Justement, où peut-on avoir des nouvelles de Cartooning for Peace et de vous ?
Cartooning for Peace.
Dans le monde et dans l'Express, évidemment.
Bien sûr, mais cartooningforpeace.org, c'est un site où nous avons une équipe de 8 personnes qui n'arrête pas de faire des bouquins. On a fait un bouquin sur les droits de l'homme chez Gallimard, on a fait un bouquin sur le sexe, on a fait un bouquin sur les inégalités, préfacé par Maryse Wolinski, par Thomas Piketty, par Christiane Taubira. Et à la fois, on fait des expositions avec Lisa. Lisa, elle va dans toutes les écoles. Et tous les kakémonos n'arrêtent pas de circuler dans les écoles, comme en ce moment, il y a des expositions sur 14-18, avec les dessins de l'époque de 14-18 qui se répondent et qui parlent avec des dessins faits sur aujourd'hui, par exemple, le gaz moutarde dans la guerre des tranchées de 14-18, avec le gaz sarin, avec Bachar el-Assad en Syrie.
Merci beaucoup, Plantu.
Merci beaucoup.
Et bonne route à vous.
Vous aussi.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Plantu. Rendez-vous sur notre nouveau compte Twitter, @ipositif, pour toutes les infos. J'attends vos commentaires, vos mails. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette interview si vous l'avez aimée. Et encore mieux, à nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant avec nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.